marché oriental. J'ai réduit totalement ces questions.
Moi, c'est l'île de Combati, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde à nouveau la parole dans cette tribune d'échange citoyen. La loi portant activité de la sous-traitance en République démocratique du Congo est sous examen au Parlement. Dans les débats généraux, certains députés ont soutenu l'importance de cette loi car, selon eux, le pays a suffisamment perdu des moyens relevant de la sous-traitance, précisément dans les domaines miniers, du transport et du gardiennage. D'autres, par contre, ont plutôt insisté sur le renforcement et l'imposition des mécanismes de contrôle quant à ce qui est dû du traitement donc de la main-d'œuvre congolaise par les sous-traitances. Quel est votre point de vue par rapport à cela? À l'adresse pa@radiokapi.net, vous pouvez déposer vos commentaires et vous avez également la possibilité de nous appeler directement au 081 890 63 15. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa est à la technique. Julie Fezabongoda et Piro et la Mégis sont à la réalisation de ce programme coordonné présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, les députés nationaux ont jugé recevable la proposition de loi portant activité de la sous-traitance en République démocratique du Congo au cours de la séance plénière du lundi 27 avril 2015 au Palais du Peuple de Kinshasa. Alors, ce projet de loi est l'œuvre, donc, rappelons-le, de l'honorable Émile Christophe Motandongo. Et cette proposition de loi poursuit le but de faire profiter du fruit du développement aux entreprises et populations locales congolaises et trouve son dans les articles 35 alinéa 2, l'article 58, l'article 122.8 de la Constitution congolaise. Nous avons déjà plusieurs réactions qui nous sont parvenues. Il y a Ngoy Socrate de Zimbabwe. Il faut que le gouvernement soit très proche de la population et cela doit être fait à travers les lois qui font valoriser la population sur tout le plan. Il nous faut une loi qui va améliorer le bien-être de la population car les leaders vivent déjà bien. Ils sont bien payés, ils vivent très bien, mais la population alors, il faut que l'État veille sur les conditions de traitement des employés et surtout par les entreprises privées. James Jamba Osongo, cette loi ne changera rien. Ce n'est qu'une stratégie que son initiateur a utilisée pour recevoir les enveloppes auprès des entreprises concernées. Cette loi est sans effet. Thierry Mobando, coup de chapeau aux députés. Voilà un des secteurs non réglementés. On attend de suites favorables des amendements et des décisions en faveur de petits peuples. John Odian de Boutembo, la loi n'a pas la garantie pour que les gens qui travaillent dans les entreprises privées ou para-étatiques signent des contrats. C'est plutôt notre politique en matière de la création d'emplois. Dans les domaines miniers, c'est encore grave. Si je prends un exemple de Kibal Gold à Durba, beaucoup de nos compatriotes sont maintenus au chômage à cause des travails sous-traitance, alors que dans les domaines du développement, il est recommandé d'utiliser en 60% la main-d'œuvre locale. Ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Benjamin Kasonga de Lubumbashi, la loi sur la sous-traitance est une bonne chose que tous ont. On espère donc depuis l'adresse du chef de l'État au notable Katangé, cela devra remettre la sous-traitance entre les mains des nationaux, mais cependant le plus grand problème sera le fonds pour les jeunes entrepreneurs qui voudront s'élancer dans cette aventure. Un autre problème aussi, le respect des lois, notamment les codes du travail, n'est pas violé seulement par les étrangers et qui ont les entreprises, mais également par les entrepreneurs congolais. L'État devra veiller non seulement que la sous-traitance soit entre les mains des nationaux, mais également veiller au respect du code de travail dans ces entreprises. Il y a encore beaucoup de messages. Nous allons découvrir ce qu'a dit Paulin Odiane. La loi dans ces domaines est vraiment indispensable. Les sous-traitants, par exemple, des Kibal Gold, se sont enrichis sur les dos du peuple congolais sans payer des impôts dans certains secteurs et d'autres ont mis les travailleurs à la porte sans justification valable. Il y a vide dans ce sens, donc donc cette loi tombe à point nommé. Claude Mbaye, typique, c'est les mécanismes mis en œuvre par les capitalismes sauvages en vue de l'exploitation des prolétaires. C'est faire division, croire que la loi sur la sous-traitance viendrait mettre de l'ordre dans ce secteur, et semblable à l'imaginaire qu'il est possible de guérir un malade mental en lui administrant des coups de marteau curatif sur la tête. La sous-traitance n'est rien d'autre. Innocent Armand Kondoli de Kinshasa, étant moi-même dans la sous-traitance, cette loi sera la bienvenue car elle va baliser ce secteur où il y a à boire et à manger. Et on termine par lui, Penera Djabo de Kindou, que cette loi existe ou pas, ça ne va rien changer. Voilà, on va ouvrir les débats avec vous qui nous avez rejoints. On va ouvrir les standards. Donc, Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Gaston.
Bonjour Radio Capé.
Vous avez la parole Gaston. Quel est votre point de vue par rapport à cette loi portant activité de la sous-traitance en République démocratique du Congo qui est sous examen au Parlement?
Merci beaucoup pour la parole Radio Capé. Je commence par remercier tous les confrères qui sont intervenus avec leur point de vue. Moi, je suis vraiment au dernier point de vue. Ce qui veut dire que cette loi, c'est une bonne chose, mais la loi dans ce pays ne pose pas de problème. Les lois, il y en a toujours. Il n'y a pas deux mois, j'ai lu une circulaire du Premier ministre s'adressant à toutes les entreprises de sous-traitance, signé par le Premier ministre. Hein, si tu vois les traitements, les Congolais, les paiements, les contrats, j'ai lu ça. Je peux vous trouver une copie, je vais vous amener. Le problème dans ce pays, c'est l'applicabilité des lois. C'est ça le problème. Quand on signe ou on vote une loi, il n'y a aucun mécanisme de suivi pour que cela s'applique. Ici, nous avons le chômage parce que ce secteur-là n'est pas suivi aussi par le gouvernement. Vous trouverez un emploi que quelqu'un peut avoir pour, par exemple, 500 dollars, mais comme c'est une firme qui est sous-traitée par exemple, Vodacom, qui l'a recrutée, cette dernière doit se retrouver. Donc, au lieu de 500 dollars, de toute façon, on doit avoir 200 dollars. Et il travaille, il ne peut rien réclamer à Vodacom parce qu'il a été exécuté. Non pas par Vodacom, mais par une autre entreprise qui sous-traite, qui est sous-traitée par Vodacom. Donc, il n'y a pas de problème de là dans ce pays, c'est un problème d'applicabilité. Moi, je m'adresse particulièrement au Premier ministre qui, jusque-là, on le trouve concret dans ce qu'il fait. Nous aimerions qu'il soit concret dans ce domaine. Parce que les problèmes d'emploi sont à la base beaucoup de problèmes dans ce pays. Quand les gens ne travaillent pas, ils sont des bandits, ils sont des badauds, ils ne réfléchissent pas. Et ça sera aussi un danger pour leur pouvoir. En dehors de la circulaire que lui, il a signée, proposée par le ministère du Travail, qui est actuellement là. Je ne peux pas trouver la copie, jamais lu, ce n'est pas le Premier ministre, mais qui n'est pas en application. On n'applique pas. C'est que sur les faire le suivi, c'est que son Parlement va voter. Ils vont faire le travail.
Oui, dommage, Gaston, parce que nous avons souhaité recevoir pour vous, en tout cas pour modérer cette émission, les vice-premiers ministres en charge de l'emploi en République démocratique du Congo, M. Willy Makashi. Dommage, parce qu'après avoir accueilli tout son accord de principe pour passer par cette émission, en dernière minute, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Son téléphone ne passe pas. En tout cas, tous nos appels sont restés sans succès 2 minutes avant l'émission. Mais l'idéal aurait été pour nous donc de l'avoir pour au fait éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à cette question et surtout par rapport à cette circulaire dont vous évoquez. Une chose est vraie par rapport à vos propos. Vous soutenez que la loi elle-même ne pose pas un problème, mais c'est plutôt son applicabilité. Et vous avez rappelé la toute dernière circulaire du Premier ministre qui évoque en fait les traitements, les contrats et puis le paiement et bref toutes les conditions de la sous-traitance et vous avez remarqué que voilà donc malgré cette circulaire rien n'est fait sur le terrain et le gouvernement selon vous ne fait pas un suivi comme il faut par rapport à cette question qui du reste reste quand même un problème sérieux dans la création de la classe moyenne dont souhaite tout le monde dans ce pays. Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé de Kinshasa. Benjamin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Perrault. Par rapport à la loi qui sera votée sur la sous-traitance, c'est une très bonne chose. Par le fait que ça pourra être soulagé tant soit peu, surtout les jeunes entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans notre pays, un blanc qui quitte chez lui pour venir mettre une sous-traitance, par exemple, pour les faire le nettoyage. Alors que ce sont des choses que les Congolais pouvaient bien faire. Mais cependant, c'est une très bonne chose. Mais le problème, comme l'a souligné le prédécesseur, c'est aussi le problème d'applicabilité des lois, notamment le code du travail. Parce que pour assurer le bien-être des travailleurs congolais, créer l'emploi, c'est bien, mais il faut aussi le respect du code du travail, parce que la loi n'est pas violée seulement par les étrangers. Nous remarquons ici même des entreprises privées de Congolais où le code du travail n'est pas respecté, les conditions des travailleurs sont déplorables. Donc nous pouvons demander au gouvernement
Benjamin, il y a deux options qui se dégagent là-dessus par rapport au débat que nous avons suivi au Parlement. Il y a certains députés qui ont soutenu l'importance de cette loi car, selon eux, le pays a suffisamment perdu des moyens relevant de la sous-traitance. Donc, le pays pouvait gagner beaucoup d'argent dans l'activité de la sous-traitance. Mais d'autres, par contre, ont plutôt insisté sur les renforcements et l'imposition des mécanismes de contrôle. Vous avez soutenu donc le point de vue de votre prédécesseur quant à l'imposition des mécanismes. Est-ce que vous partagez également le point de vue selon lequel que le pays a suffisamment perdu de moyens relevant de la sous-traitance, précisément dans les domaines miniers, du transport et du gardiennage?
Oui, d'accord, c'est quelque chose de très fondé parce que nous les remarquons bien ici, même ici à Lubumbashi, dans la plupart d'entreprises, notamment les entreprises minières. Il y a des Zimbabwéens, des Sud-Africains, des Philippiens qui sont venus ici avec la sous-traitance et ce qui est grave, ils recrutent même les travailleurs toujours de leur nationalité, ce qui est au détriment des Congolais, surtout des jeunes, parce que pour l'argent qu'on paie à ces gens-là comme salaire, ils envoient ça dans leur pays, c'est notre pays qui est en train de perdre. C'est une très bonne mesure. Moi, je crois que c'est pas nécessaire. On ne peut pas dire renforcer seulement les mesures et aussi laisser la loi tomber. Mais il faut les deux. Il faut la loi, il faut aussi renforcer les mesures pour le bien-être des travailleurs congolais.
Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir appelé de Lubumbashi. Là, vous rejoignez d'ailleurs les députés qui ont évoqué que la sous-traitance est devenue en République démocratique du Congo un réel problème. Et c'est pourquoi ils auraient tous souhaité que l'objectif de la loi soit, en tout cas, de pouvoir susciter réellement la classe moyenne. Bénédiction, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. En fait, moi, c'est Bénédiction Nigo, membre du groupe d'auditeurs de la radio Okapi, démocratie et paix, au CIFIU.
Voilà, alors oui, Bénédiction, vous avez envoyé un message sur notre page Facebook. Vous avez dit que l'absence ou la présence et l'absence des lois dans ces pays semblent actuellement dire la même chose, hein, d'autant plus qu'il y a des lois qui existent et qui ne servent absolument à rien. Et cette loi qui vient d'arriver risque de souffrir comme les autres.
Oui, mais c'est très, en tout cas, je l'ai stipulé dans mon message sur ma page Facebook. Monsieur JR, dépourvu des arguments convaincants par rapport à cette loi, parce que actuellement on ne sait pas vraiment cette loi vraiment dit quoi.
Oui, mais nous avons dit en début d'émission, je crois que vous nous avez suivi, nous avons dit qu'il y a deux options qui se dégagent par rapport aux innovations. Aujourd'hui, c'est vrai, la loi met l'accent sur ces manques à gagner pour l'État, que l'État pourrait récupérer dans les jours à venir. Donc le pays a suffisamment perdu de moyens relevant de la sous-traitance. Et d'autre part, il y a les députés qui ont aussi évoqué le renforcement et l'imposition des mécanismes de contrôle qui pourraient être aussi l'idéal.
Oui, monsieur JR, il y a beaucoup de lois qui ont été votées dans ce pays, mais l'applicabilité maintenant de ces lois, c'est ça qui cause problème. Je vais interpeller fortement notre gouvernement de prendre cette affaire
à bras les corps.
Allô?
Oui, allez-y rapidement, Bénédiction.
Oui, je vais interpeller depuis notre gouvernement de prendre cette question avec beaucoup de précautions parce qu'il y a beaucoup de lois qui existent dans ce pays mais qui ne servent absolument à rien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédiction. On va prendre Papi qui est à Kinshasa. Bonjour, Papi.
Bonjour, bonjour aussi tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, l'État, le pays a perdu suffisamment de moyens relevant de la sous-traitance. Ça, c'est le point de vue d'une partie des députés. Il y a d'autres qui ont plutôt insisté sur les renforcements et l'imposition des mécanismes de contrôle quant à ce qui est du traitement de la main-d'œuvre congolaise par les sous-traitances. Alors, quel est votre point de vue?
Moi, je crois que la déclaration de l'État congolais, monsieur Gilles, c'était la veille d'échec. Donc, on dit que vaut mieux tard que jamais. Je soutiens quand même cette hypothèse-là, donc, l'adoption de cette loi. Mais l'essentiel n'est pas de voter à la loi, comme l'ont dit les autres auditeurs. L'essentiel est de mettre les mesures d'application de ces lois-là. Alors, par rapport au cas sous examen, je souhaiterais premièrement que dans cette loi, qu'on puisse donner la prérogative aux travailleurs, soit aux salariés, en cas de conflit ou lorsqu'ils sont lésés, de saisir directement l'entrepreneur et non les sous-traitants. Parce que vous savez, dans ce pays, M. J.R., la majorité des sous-traitants ne sont pas connus de l'État congolais. Il y a des milliers de dollars qui échappent au gouvernement congolais comme ça. Il y a des fois, avec la complicité de certains dirigeants. Et quand on parle du contrôle pour éviter la fraude dans ce domaine-là, moi je crois que cette matière du travail, cela relève principalement de l'expression du travail. Parce que nous sommes dans la capitale de la RDC. Moi je suis avocat, allez-y voir à l'inspection du travail à Kinshasa, il mettait comment les inspecteurs travaillent, dans quelles conditions ils travaillent. Le gouvernement ne peut pas voir que la population congolaise est toujours type jusque-là. On fait que promettre, donc on peut aller de promesse en promesse. L'État n'est plus à blaguer ou de faire des discours inutiles. Il met tous les moyens en place pour résoudre ces problèmes-là. Parce que les inspecteurs travaillent dans des conditions vraiment inhumaines et dégradantes et ils ne seront pas vraiment perdre les contrôles, même si la loi existait, ce sont ces inspecteurs-là qui vont contrôler, qui vont faire les suivis. Il y a encore l'Office national de l'emploi, MCJR, qui est censé connaître tous les recrutements qui se font sur l'étendue de la République. Mais cet office-là, il n'a pas entre ses mains tous les moyens pour bien faire son travail. Donc tout cela, c'est le peuple congolais qui est tenté de périr. Donc moi, je crois que dans un pays, un bon citoyen est celui qui met à l'État les dispositions de bien faire sa politique. Donc, c'est lui qui met les moyens à la disposition de l'État en fait de bien faire sa politique.
Merci beaucoup, Patrice. Merci
les interventions de tous les auditeurs ne puissent pas être seulement comme un slogan.
Merci beaucoup, Papy. Merci beaucoup. Merci, Papy, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Félicien, toujours dans la même ville. Félicien, bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Voilà, malheureusement, on n'a pas, dommage, donc on n'a pas d'invité. Il était prévu qu'on reçoive dans ce studio le vice-premier ministre, ministre en charge de l'emploi, travail et prévention sociale, M. Willy Makiachi. En dernière minute, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tous nos appels sont restés sans succès. Voilà, donc raison pour laquelle on fait avec vous parole aux auditeurs, Félicien, sans modérateur, mais dans les minutes qui suivent, on aura c'est lui, un député, et qui est de la commission qui s'occupe de cette question au Parlement, donc comme la question est sous examen. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, merci beaucoup, Gérard. Je voulais dire que les députés disent que le pays a perdu beaucoup de moyens dans la sous-traitance et dans les domaines rémunérés. Mais moi, je dis que le pays perdra toujours de l'argent dans tous les domaines. Et cela, c'est officiel, c'est connu, même de ces députés. Il perdra toujours tant que nous serons dans ce système de gestion de la République où les antivaleurs, et spécialement la corruption, ne seront pas éradiquées. Et ces députés ne pourront rien faire à cet état des choses. Parce que même ils sont à la base de tout cela. Comment les députés peuvent penser qu'ils doivent seulement battre des lois mais ils ne peuvent pas faire appliquer ces lois-là. Quand ils s'opposent au contrôle du gouvernement et des chefs d'entreprise, chaque fois qu'on interpelle, donc les chefs d'entreprise ou les ministres à l'aise, ils savent qu'on ne lui fera rien et tout ça, on distribue de l'argent. Mais ces lois-là, ça servira à quoi? Mais ce n'est pas des lois qui nous manquent dans ce pays. Nous avons des lois, nous avons le code du travail, mais voyez comment il est appliqué, ce code du travail. Et regardez comment, dans les entreprises, on est en train de supprimer unilatéralement par un chef d'entreprise, les avantages prévus par la convention collective. Et vous voyez comment les gens sont en train de perdre parfois même les travails. Et les personnes du travail ne peuvent même pas protéger ces gens-là. Il y a manque de lois qui nous manquent dans ce pays. Non, moi je pense que nous devons nous battre pour sortir de cet état des choses, en changer de système de gestion de la République. Et nous manquons la classe moyenne dans ce pays. Ou bien on a la classe moyenne n'existe pas, on a que les patrons qui sont en politique. Pour avoir de l'argent, il faut aller en politique. Et en dehors de la politique, il n'y a que des étrangers qui sont là, qui viennent piller les richesses du pays. Et la population est là, dans cette misère-là, en train de couper. On paye n'importe quoi aux Congolais. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Vous savez qu'ailleurs, pour une petite entreprise que vous créez, les conditions qu'on vous donne pour d'abord, c'est d'engager les nationaux. Mais à quel prix? Et quel montant vous payez? Et je vis en Chine, des Congolais qui n'ont que des petits restaurants où on vend les tilapia et les foufous pour nous, les Congolais qui allons là-bas. Mais obligatoirement, ils ont engagé d'abord les Chinois. Et ces Chinois qui l'engagent, ce sont que des ouvriers pour nettoyer les assiettes, pour faire tout cela. Ils doivent être payés plus que les gérants qui sont Congolais qui l'ont mis là-bas. C'est ça la protection de la main d'œuvre. C'est ça la protection des citoyens. Mais chez nous, qui va faire ça?
Oui,
c'est encore arrivé, M. Gers.
Oui, Félicien.
C'est encore arrivé, nous sommes à la recherche de cet homme politique-là qui va se battre pour l'intérêt des autres.
Oui, mais Félicien, nous avons suivi quand même l'actualité, à commencer par le gouvernement Gizenga, Gizenga 2, et puis Mouzitu 2, arrivé aujourd'hui à Matata 1, Matata 2. On se rend compte qu'il y a des efforts qui sont menés par les différents gouvernements qui sont succédés pour arriver finalement à la protection de la main-d'œuvre congolaise.
Au lieu de parler des efforts des gouvernements qui se succèdent, M. Gers, vous devez compter des années que nous avons passées depuis que nous avons l'indépendance. Où nous sommes, combien d'années les Belges nous ont colonisés, et quel était le niveau de vie de nos parents, et quelle était la situation des études des enfants, de la santé. Il ne faut pas nous parler de ces histoires-là, même eux-mêmes qui viennent voir, qui viennent vérifier. Et c'est qu'on est en train de dire qu'il y a une évolution dans tout ce site-là et ils sont en train d'ajouter les mains chaque fois. Mais, les mains-là, ça signifie quelque chose.
Alors même le recrutement de 1000 inspecteurs, les jeunes inspecteurs du travail, ça vous rassure toujours pas?
Mais ça changera pas. Nous sommes dans la corruption. Un pays qui a la corruption comme un mode de gestion de la République. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut échapper à ça? Nous devons de battre d'abord contre les antivaleurs. Quand il n'y aura plus d'antivaleurs, quand il n'y aura pas la corruption, quand il y aura un État sérieux, un État respectable, un État de droit, là, à ce moment-là, chacun doit savoir qu'il n'est pas n'importe où. Mais tant que nous n'allons pas éradiquer les antivaleurs, et spécialement la corruption, au plus que nous faisons, c'est comme si on est en train de mettre des médicaments sur une plaie qui est infectée, qu'on n'a pas encore nettoyé.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé de Kinshasa. Là, vous rejoignez un bon nombre d'auditeurs qui ont appelé avant vous, ainsi que d'autres députés qui ont plutôt insisté sur les renforcements et l'imposition des mécanismes de contrôle quant à ce qui est du traitement de la main-d'œuvre congolaise par les sous-traitances. Alors, quel est votre point de vue, Michel? Vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Ah oui, moi j'aimerais, avant d'aborder ce sujet, que tous les auditeurs et tous les peuples congolais sachent d'abord que nous ne pouvons pas résoudre avec ces problèmes si nous nous considérons être toujours des hommes normaux. Je l'ai dit dans une de vos émissions, que nous devons d'abord nous considérer que nous sommes des esclaves. Vous savez, la plupart de ces pays qui ont compris que nous sommes d'abord des esclaves, c'est passé.
Michel, c'est quand même trop fort. Nous ne sommes plus des sujets esclaves, quand même. Je crois que le monde a évolué, la société est dynamique, l'esclavagisme, on n'en parle même plus. Même dans des pays de la haute démocratie, on n'en parle même plus. Donc, je crois que nous ne pouvons pas revenir sur ces genres de considérations. Voilà.
Vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui prive des droits. Moi, j'aime toujours faire des exemples. Vous savez, j'habitais non loin d'une antenne d'un réseau de communication. Vous savez ce qui s'est passé? La personne qui était engagée pour le service de gardiennage, pour garder cette antenne, normalement, il devait prendre des transports pour arriver chez lui. Donc, l'idée du travail jusque chez lui. Mais il fait le pied. Il arrive au lieu du boulot, on lui donne ni à manger, il n'a même pas là où aller faire des soins, là où aller faire ses besoins. Il n'a même pas cet endroit-là. Vous savez, lorsqu'on voit la manière dans laquelle l'autre se contente, c'est malheureux. Qui est contre. Et si vous faites la statistique, vous allez comprendre que la plupart des cas, ces sous-traitants, on leur paye, de ces employés-là, on leur paye 100 dollars. Si vous faites la statistique, vous allez comprendre, c'est le montant qu'on paye en moyenne à tous ceux qui sont engagés dans la sous-traitance. Mais lorsque vous prenez avec ces 100 dollars, vous avez une maison que vous devez louer. Vous avez les frais de transport là-dedans, les frais de restauration là-dedans. Vous avez des frais de souffrance que scolariser vos enfants là-dedans. Et là, c'est un homme normal. Il doit vivre avec ce qu'il a. Moi, je crois qu'il faut que le ministère de l'Emploi puisse jouer son rôle. On ne peut pas résoudre les problèmes de la sous-traitance si on ne résout pas les problèmes de l'emploi dans sa globalité. Et je peux vous demander quel est le rôle du ministère de l'Emploi de notre pays. Il n'en a pas.
Non,
la
même
année qui est absent.
Oui, ce n'est pas un ministère simple, c'est quand même une vice-primature. C'est lui qui a la tête de ce ministère, c'est un vice-premier ministre.
Vous savez, monsieur les journalistes, aujourd'hui, oui. si vous suivez tous les discours de monsieur François Hollande, c'est pour lutter, c'est pour gagner à ce qui concerne le chômage, c'est pour gagner les problèmes de l'emploi. Est-ce que chez nous aussi, vous entendez tel discours, les gens qui se donnent comment nous pouvons résoudre, parce que lorsque vous donnez l'emploi, vous sécurisez les nationaux. Vous sécurisez les enfants, ce qui n'est pas chez nous. C'est pourquoi je me dis, considérons-nous d'abord que nous sommes des esclaves. Si nous sommes arrivés à ce niveau, nous allons trouver maintenant des solutions à qui se passer. Vous savez quoi, tous ceux qui organisent ces problèmes, toutes ces sociétés, les sous-traitances, ce sont des politiques. Ils sont ceux-là, ils sont là. Et lorsque ce problème va au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce sont ces gens-là qui ont créé toutes ces sociétés. Et aujourd'hui, je vous ai donné un exemple aujourd'hui. Constatez ce qui se passe entre nous. Et les expatriés qui sont ici. Ce sont des gens qui commettent vraiment des forfaits en ce qui concerne ceux qui travaillent chez eux. Mais la justice, vous allez prendre un dossier, vous l'amenez aux expatriés, à l'expatrié du travail, vous l'amenez au niveau du procureur, vous allez dans des cours des tribunaux, vous n'aurez même pas d'heure de cause. C'est pourquoi moi j'ai dit que, je ne peux même pas donner un conseil au gouvernement. Donc ce que je donnerai, c'est maintenant là, comme nous avançons vers les élections, je crois que les candidats qui doivent venir doivent d'abord commencer à nous dire qu'est-ce qu'il veut résoudre dans la situation de l'emploi. Je dis.
Merci beaucoup Michel d'avoir appelé des Matadi. Joseph, vous êtes à Bukavu. Est-ce que vous avez pratiquement les mêmes inquiétudes, hein? Joseph, vous êtes avec nous?
Oui, allô, je suis avec vous. Merci de m'avoir accordé la parole. Et tout ce que mes prédécesseurs ont illustré, je pense que le pays va à l'envers. Nous ne pouvons pas continuer dans le système de l'offre créée à propre demande au 19e siècle avec Jean-Baptiste Dessay. C'est la manière dont nous vivons au Congo, c'est déplorable. Avec la jeunesse, il n'y a pas d'emploi. Alors, si nos dirigeants sont là, ne sont pas là pour s'accaparer de tout, mais regardez la jeunesse. Je vous donne l'exemple aujourd'hui, c'est à Bukavu. Dans les différentes entreprises, quelqu'un travaille du jour au jour, il touche 80 dollars le mois. Mais avec l'exemple de la France, un ouvrier simple touche par 9 dollars. Et on se demande qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est dit que nos dirigeants n'ont pas ce temps, n'ont pas la capacité de créer d'emplois. Nous n'avons pas d'entreprise. Ce sont les étrangers qui arrivent et qui créent leurs propres entreprises au Congo, d'une telle façon que nous sommes traités comme les esclaves. Alors nous, on se demande si nos dirigeants, ils vont toujours, de jour au jour, en Europe. Pourquoi ne puissent-ils pas amener
les modèles qui sont
vus en Europe et regarder comment changer les pays. Nous ne pouvons pas demeurer ainsi.
Imaginez-vous cette jeunesse. Quelqu'un termine les études sans pour autant se refaire les grâces. Vous voulez qu'il fasse quoi? Alors, on doit regarder comment changer. On a commencé avec les vidéos, Matata, les pays Vaou. Les 5 ans qui viennent déterminer quel peut être le bilan de ce gouvernement. Et que donc, moi, je peux dire que nos dirigeants, si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de nos dirigeants. Ils n'ont pas la volonté que ce pays aille de l'avant. Et que donc, on doit changer la primature et voir si les autres peuvent faire l'essentiel. Et pouvoir les perpétuellement, mais donner aux autres de diriger les pays et créer aussi l'emploi à la jeunesse. C'est ce que je devrais ajouter.
Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, Joseph. Nous rappelons à tous ceux qui veulent la peine de nous rejoindre, de composer les 081-890-7315 pour l'heure d'intervention en direct.
Au Capis Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, des offres d'emploi, des nouvelles du site web de Radio Au Capis. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, des journaux en français, Soyi, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Au Capis Soir.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capiche. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen avec vous. Nous avions, comme l'avons dit en début de cette émission, c'était, disons, avoir comme modérateur principal dans cette émission, M. Willy Makashi, vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévention sociale. Malheureusement, tous les derniers appels avant cette émission, c'était sans succès. Raison pour laquelle nous avons vite trouvé un modérateur qui pouvait nous éclairer ou éclairer la lanterne des uns et des autres, et Arsène Mouaka, qui était député national, membre de la commission politique administrative et judiciaire, PAJ. Monsieur l'honorable Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour. Bonjour Pierrot.
Oui, c'est plutôt JR qui est à l'antenne. Voilà, alors Arsène, vous êtes avec nous, c'est vrai, vous avez suivi les auditeurs, mais la première question aujourd'hui, en partant par les dispositions générales de cette loi, en passant par les principes et modalités de l'exercice de la sous-traitance, ainsi que les obligations des parties et les sanctions, pour terminer par les dispositions finales, qu'est-ce qu'on peut retenir comme innovation de cette loi pour protéger la main-d'œuvre congolaise?
Oui, je voudrais saluer d'abord les auditeurs Radio Capi et dire que notre collègue l'honorable Monta avait proposé à l'Assemblée nationale une loi qui avait pour objectif principal de protéger l'emploi du Congolais dans le domaine de la sous-traitance. Et donc la loi a l'avantage de structurer la sous-traitance puisque elle était un peu anarchique. Et elle profitait beaucoup plus à l'extérieur qu'aux PME congolaises. Et donc, je pense que le plus gros avantage, c'est celui-là. Mais il est vrai que cette loi a des éléments qu'il faut absolument compléter. Et cette loi est encore en étude. Et les honorables députés ont déposé des amendements qui vont être examinés dans différentes commissions. Et donc, nous pensons que cette loi va s'améliorer et elle va permettre à ce que le domaine de la sous-traitance revienne pratiquement aux PME congolaises.
Alors, voilà, donc nous avions appris que la commission mixte pour travailler sur la question n'avait que 10 jours pour ce travail.
Absolument. Elle devait examiner les différents amendements déposés par les honorables députés. Et parce que c'est pas une très très grande loi, ça ne fait pas beaucoup de pages, mais je pense qu'il y avait des aspects à compléter, notamment des aspects liés à la protection même des travailleurs, des sous-traitants, parce que c'est là que le plus grand débat a résidé, d'autant plus que on peut bien garantir que la sous-traitance peut être accordée prioritairement aux Congolais.
mais ceux qui se retrouvent dans des entreprises qui sous-traitent les Congolais les mettent pratiquement dans une situation inacceptable. Et pratiquement, les petites et moyennes entreprises congolaises qui sous-traitent se prennent pour des kamikazes appelés à violer les droits des travailleurs au profit des capitalistes internationaux qui viennent trouver des conditions de travail anarchiques au Congo. Et donc, la loi va aller dans le sens de protéger aussi les travailleurs congolais qui se retrouvent dans la sous-traitance. On n'a qu'à prendre l'exemple de nos frères congolais qui se retrouvent dans des sociétés de gardiennage. Et donc, l'entreprise qui prend en sous-traitance la plupart des sociétés de gardiennage, par exemple, peut avancer une somme par individu de $300, mais c'est aberrant de constater que les Congolais qui sont dans le gardiennage se retrouvent à la fin du mois avec $110. Et donc, on a comme ça un individu qui n'a rien fait, qui n'a pas travaillé et qui s'accapare de $230 et qui jette juste $110 à un Congolais. Qui passe la nuit dehors et qui fait des journées de travail, c'est inacceptable. Et donc, nous avons insisté dans le débat qu'il faudrait que ces aspects soient corrigés et que la loi prenne en charge cela. Évidemment, le grand débat, c'était de savoir est-ce que ce n'est pas de la faute des inspecteurs du travail qui ne veulent pas vérifier les conditions dans lesquelles les travailleurs congolais évoluent. Mais nous pensons que la loi de la sous-traitance doit traiter toutes les questions qui se retrouvent autour de la sous-traitance. Soit est là pour pratiquement proposer des solutions à des problèmes qui se posent dans la société.
Donc, si je comprends bien, cette loi pourrait améliorer les conditions de sous-traité.
C'est l'idéal, oui, puisque on voudrait remettre pratiquement la sous-traitance dans le formel, que ça ne soit pas quelque chose qui s'arrange à côté, mais qu'il y ait une loi qui prévoit des sanctions pour celui qui ne fait pas ceci, qui prévoit des lois. Donc, l'idéal, c'était que cette loi aussi améliore les conditions de ceux qui sont utilisés dans les sociétés de sous-traitance.
Est-ce que la loi elle-même dit aussi quand même les conditions pour l'exercice de la sous-traitance?
Oui, la loi en fait donne la possibilité de prendre en priorité les sociétés congolaises. Il faut avouer que l'arrière-fond de cette loi avait tendance à aller beaucoup plus vers des grands travaux comme les mines et tout le reste. Mmh. Mais je crois que dans la commission, la loi va être ramenée vers l'ensemble du problème. La loi telle qu'elle a été présentée, elle s'inspire beaucoup plus visiblement de la question du Katanga, où il y a comme ça des grandes sociétés minières internationales qui viennent, et donc qui ont besoin de nettoyage, par exemple des usines, qui ont besoin de certains travaux spécifiques qui ne font pas partie, en fait qui ne font pas l'objet même, de l'objet social de la société internationale qui vient travailler au Congo. Et donc la sous-traitance ne peut se passer que dans des travaux auxiliaires qui accompagnent l'objet social. Et là, c'est une grande affirmation pour qu'il ne soit pas acceptable qu'une banque vienne à Kinshasa au lieu d'engager des Congolais. Cette banque se rabat à des petites sociétés de mercenaires congolais qui, au guichet, mettent leurs agents. À d'autres termes, il est très facile aujourd'hui de trouver dans une banque, alors que l'objet social de la vie d'une banque, c'est un peu de finances, c'est le crédit, et ainsi de suite, mais vous retrouvez au guichet des agents qui ne sont pas des agents de la banque. C'est des agents des sous-traitants qui les payent et les traitent comme ils les traitent, et vous trouverez votre frère congolais. Vous croyez qu'il va, dans la vie, sa vie ça va s'améliorer puisqu'il travaille dans une banque, et après il vient vous informer qu'il est sous-traitant d'une petite entreprise, ainsi de suite. Est-ce que compter l'argent ne fait pas partie de l'objet social d'une banque? Et donc, c'est des questions de ce genre qui vont être réglées, puisque aujourd'hui, il y a une multitude d'emplois des Congolais qui sont carrément détournés. Et c'est inadmissible que des gens évitent les charges sociales et qu'ils viennent investir au Congo pour faire des bénéfices fous sur le dos des Congolais, sur les champs des Congolais et sur leurs sueurs. Et donc, c'est inacceptable. De tels problèmes sont arrangés par cette loi. Elle nous permet d'avancer pour éviter de telles histoires. Il y a beaucoup de sociétés qui pratiquement sous-traitent leur objet social. Alors que cette loi vient corriger, on ne peut pas sous-traiter l'objet social pour lequel la société a été créée. Et donc, voilà. On ne peut que sous-traiter dans ce qui est auxiliaire.
Voilà, nous vous gardons en ligne, Arsène. C'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes et aussi beaucoup de soucis par rapport à cette question, parce que c'est quand même un problème réel qui constitue aujourd'hui une véritable gangrène dans les secteurs de l'emploi. Nous savons que le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale, disons en son temps, M. Bahati Lukwebo, avait même pris des décisions très très courageuses pour fermer certaines entreprises de placement, qui, en fait, ne respectait pas la législation congolaise en la matière. Mais aujourd'hui, avec cette loi, nous pensons que cette question pourrait être encore remise sur la table et revoir ces entreprises qui travaillent, en tout cas, dans les normes ou d'une manière formelle. Merci beaucoup, Arsène. On va revenir à vous, le temps d'écouter encore deux autres auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Adrien qui est à Kinpessé et puis Emmanuel qui est à Colusi. Adrien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Oui, en tout cas, merci pour la parole. Je voudrais intervenir pour cette loi, mais je crois que j'ai suivi l'intervention de l'honorable qui est en ligne tout à l'heure. J'ai pris des réserves, parce que comme je n'ai pas lu cette loi, je ne peux pas vraiment beaucoup commenter par rapport à cette loi. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est l'absence... Permettez-moi, monsieur le journaliste,
allez-y.
Je suis devant la radio. C'est l'absence de Monsieur Willy Makiash. Il y a une charge importante dans cette République qui devait venir devant cette radio pour nous répondre par rapport à cette loi, parce que c'est lui qui est beaucoup formé par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Vous venez de le dire, Monsieur Willy Makiash a été invité par devant une presse. Et c'est quelle radio? C'est la radio Okapi. Ou même le Premier ministre passe s'il y a un problème. Donc, je crois que Michel Dematadi a parlé de l'esclavagisme. Monsieur le journaliste, il faut bien suivre l'absence de M. Willy Makiash aujourd'hui. Et même, il ne vous a même pas répondu. Vous l'avez bien dit que M. Willy Makiash avait marqué son accord de principe. Or, quand on marque un accord de principe, bon, s'il y a des problèmes qui peuvent arriver parce que nous sommes humains, il faut s'excuser. Et surtout que c'est la presse. Il faut s'excuser. Ou soit envoyer un de vos parmi vos collaborateurs. Mais voilà cette silence là qui vous dit Mathias a fait. Il nous laisse devant la radio débattre. Et heureusement qu'il y a présent de l'honorable Arsène qui vient de nous secourir. Pourquoi je dis que c'est très dangereux cette absence-là. Voilà un peu ce que je devais justement souligner pour le gouvernement.
Voilà, heureusement vous l'avez reconnu, il y a d'autres charges d'État, peut-être, bon, on ne sait pas trop, mais une chose, c'est que nous décrions nous-mêmes aussi, parce qu'il y a l'accord de principe, nous avons arrêté, nous savons qu'il y a des questions qui demandent assez qu'on puisse avoir des solutions sur le plan politique, il y a des questions sur le plan social, et aussi la responsabilité des députés qui sont des législateurs qui travaillent sur la question, et cette loi a été proposée par le gouvernement, donc je crois que c'est revient au gouvernement de pouvoir donner quelques éclairages là-dessus. Mais nous avons mené des démarches, l'accord de principe nous avait été accordé. Bon, dommage, nous ne savons pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en dernière minute. On n'a pas, c'est tout est resté sans succès. Mais quand cela ne tient à rien, notre invité Arsène Mouaka a bien précisé les choses, surtout avec quelques innovations apportées par cette loi qui pourrait, dans les jours à venir, protéger en tout cas la main-d'œuvre congolaise qui est sous-traitée. Donc on peut dire déjà, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent dans les secteurs.
Oui, c'est pourquoi je viens de dire que je salue la présence de l'honorable Arsène, que je salue en passant. En tout cas, merci, je suis un peu apaisé et je continue à suivre le monsieur jusqu'à la fin.
Je vous en prie, Adria, merci d'avoir appelé d'équipe PC et surtout d'avoir contribué à l'apportant cette précision. Ingénieur Emmanuel, vous êtes à Colusi, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, JR.
Bonjour. Je vous remercie grandement d'avoir m'accordé la parole dans cette cadre radio et une émission si pertinente que celle-ci. Vous voyez, vous remarquerez vous-même l'absence d'un ministre. Cela veut dire que rien de bon ne se fera.
Oui, on a déjà dit, pourquoi
même la loi qu'on vote là ne produira aucun effet. Pourquoi je dis cela? Dernièrement, il y a eu au passage du ministre Modeste Bahati à Colusi ici. Il en a fait une conférence de presse autour de ça. Il a même déclaré que non, on ne peut pas accepter que dans le sous-traitant ceci, d'abord, qu'il y ait trop d'expatriés. Mais c'est juste, allez un peu dans les magasins que vous entendez, Moumi, KCC, tout comme ça. Vous allez vous rendre compte que nous sommes envahis, sérieusement. Tant des Indiens qu'il ne faut rien, il n'y a que des Soudanais. Alors allez un peu même si là à côté, il y a beaucoup de Soudanais qu'on peut amener ici. Il ne faut rien, les Indiens, les Zidoubakouéens, ils sont nombreux. Et on les paye très bien à des travaux que les Congolais ne peuvent faire. Hein? Donc nous sommes un pays sans maître. C'est malheureux. C'est malheureux.
Non, mais la RDC. Oui, la RDC n'est pas un bien sans maître, Emmanuel. C'est quand même un pays démocratique.
Mais non, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Nous les voyons. Il y a des lois. Le ministre est venu ici, il a déclaré. Non, on ne peut pas accepter ça, il y a beaucoup de... Mais les Indiens, les Zimbabwéens, les Sud-Africains, vous allez voir quel travail.
Mais nous avons dit...
Ce sont les travaux des nationaux qui peuvent faire un suffrage ici. Il n'y a personne qui contraint ça.
Mais nous l'avons dit, Emmanuel, il y a des efforts qui sont menés depuis Kizenga 1 et jusqu'aujourd'hui avec Matata 2. On se rend compte que, en tout cas, de plusieurs ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, on sent qu'il y a des efforts pour pouvoir améliorer la protection de la main-d'œuvre de la main-d'œuvre congolaise sous-traitée. Hein? Donc, comme pour dire, c'est vrai, il faut prendre notre mal en patience.
Ah bah c'est vrai, quand vous êtes dans des bureaux à Kinshasa, nous qui sommes à l'intérieur, nous vivons ce qui s'est passé, c'est un peu malheureux. À Kinshasa, on masque un peu de choses. Venez à l'intérieur, vous allez voir que la réalité, peut-être que c'est loin de ce qu'on déclare dans la presse là. À Kinshasa, on masque des choses. Nous qui sommes encore à l'intérieur, nous vivons la réalité, c'est malheureux.
Donc la situation,
c'est vraiment... Je peux considérer que non, moi je ne crois pas ces lois là, c'est juste une vaste distraction. Les députés aillent. Des conseils, et puis il n'y aura pas d'effet.
Merci beaucoup, vous êtes trop pessimiste par rapport aux résultats que donnera cette loi. Merci beaucoup, ingénieur Emmanuel, d'avoir appelé de Colésie. Nous restons toujours au Katanga avec John qui est à Likasi. John, bonjour. Voilà, John, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous, Gilles.
Vous avez la parole, John.
Merci beaucoup, je suis très content pour cette loi et je soutiens vraiment à 100% l'intervention de l'honorable Mwaka qui est venu à la rescousse du gouvernement. Alors, je voudrais dire une petite observation avant de commencer. Un homme d'État reste un homme d'État. Il a un service de protocole, il a un agenda. S'il a un autre agenda, il n'a qu'à demander au service de protocole de s'excuser, il s'excuse lui-même. Sinon, ça nous met mal à l'aise. Bon, je voudrais tout simplement dire que le travail que nous devons faire, comme disait l'honorable Mwaka, c'est de regarder ces sujets-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de circonscription. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Tout ce qui se passe, c'est grâce à nous, les Congolais. Nous ne dénonçons pas. Nous devons dénoncer. Si nous ne dénonçons pas, ça ne sert à rien. Voilà tout ce que je peux dire.
Merci beaucoup, John, d'avoir appelé Delicacy. Arsène Mwaka, vous êtes notre invité. Vous êtes encore en ligne.
Oui, je suis allé.
Alors, nous avons tous suivi les débats, en tout cas par rapport à cette deuxième série des auditeurs, mais nous revenons un peu sur ce que nous avons pu observer lors de débats généraux au Parlement. Il y a certains députés qui ont soutenu, en fait, l'importance de cette loi, comme il en est également dans cet échange citoyen. Il y a, parmi ces députés, il y a ceux qui ont pensé que le pays a suffisamment perdu des moyens relevant de la sous-traitance, précisément dans les domaines miniers, du transport et du gardien. Est-ce que vous partagez cet avis, vous?
Oui, absolument, puisque, en fait, quand l'économie congolaise tente de renaître, il est très clair qu'elle doit renaître au profit des Congolais. C'est notre pays et on ne peut pas aller dans n'importe quel pays avoir le droit de travailler. Il y a toujours un permis de travail avant de pouvoir prétendre à travailler. Généralement, la plupart des États exigent que si on veut prendre une main-d'œuvre étrangère, qu'on puisse démontrer qu'une telle main-d'œuvre ne peut pas exister dans le pays. À d'autres termes, il est inadmissible qu'on prenne des maçons en Afrique du Sud, qu'on les amène au Congo, qu'on prenne des maçons au Zimbabwe, qu'on les amène au Congo, alors qu'il y a des Congolais qui sont maçons, et ainsi de suite. Et même s'ils ne sont pas bons maçons, former rapidement un bon maçon, ça ne prendra pas trop de temps. Et donc, il est réellement clair
que le Congo a beaucoup de manques à gagner dans ce secteur. Vous irez dans des magasins, vous allez retrouver des expatriés qui sont dans des petits boulots, des livraisons de marchandises, des comptages d'argent. Est-ce qu'un tel travail, nous manquons la main-d'œuvre pour le faire? Et donc, il y a réellement des problèmes au niveau du ministère du Travail, puisque la plus grande part, c'est l'application de la loi. Ce sont les inspecteurs de travail qui doivent faire ce travail-là pour se rassurer que ceux qui sont en train de travailler ont le droit de le faire. Du ministère du Travail, il y a le ministère de l'Intérieur, la DGM, qui accorde le visa de travail à n'importe quel permis de travail, c'est monnaie. Et donc ça, c'est inadmissible. Il est question que, pour ce qui est de la protection de la main-d'œuvre congolaise, qu'on applique les lois qui existent. Mais ici, nous sommes quoi qui vient créer une opportunité pour les petites et moyennes entreprises congolaises, à notre terme. S'il y a des Congolais qui pensent qu'ils peuvent avoir une expertise dans un domaine quelconque, ils peuvent créer une entreprise avec pour objet de se soumettre à la sous-traitance. Parce que la loi prévoit, par exemple, que quand on veut sous-traiter, c'est-à-dire on annonce qu'on est entré à la recherche, on est à la recherche d'une société qui peut être capable de faire ceci ou cela, et on sélectionne selon une procédure, que ce soit l'État, que ce soit les particuliers. Tout le monde doit publier. On doit publier, ça ne doit pas être des trucs où le chef lui-même constate qu'il y a besoin d'une sous-traitance et lui-même crée la société de sous-traitance. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Quand quelqu'un sait qu'il est à la tête d'une entreprise qui va avoir besoin de sous-traitants, lui-même initie au nom de son fils ou de sa femme une entreprise de sous-traitance et il s'accorde lui-même le marché. Et il se le donne aux meilleures conditions et il maltraite les Congolais qui n'ont pas d'emploi, qui sont obligés d'accepter n'importe quelle condition. Maintenant, l'existence de la loi permet à ces Congolais de se pourvoir à justice si leurs droits peuvent être protégés par la loi. Et donc, la loi n'est pas inutile. Je ne suis pas d'avis des auditeurs qui pensent que ça ne changera rien. Non, ça changera. Nous devons avoir la nouvelle culture de dénoncer. Et je pense qu'un des auditeurs l'a dit. Nous devons avoir le courage de dénoncer. Mais quand on dénonce et qu'il n'y a pas une loi qui condamne ces actes-là, ça pose problème. C'est pourquoi le Parlement congolais est en train de travailler sur cette loi pour la mettre à la disposition de la justice et à la disposition du monde du travail pour que cette loi soit respectée. Et donc, je pense que cette loi, c'est une très bonne nouvelle pour les Congolais. Mais seulement, le problème, c'est de dire aux États qui exécutent les lois que ces États doivent le faire. Voilà, le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur, les cours de tribunaux, eh bien, on doit avoir pour objectif amener les Congolais à se retrouver au travail. Il est inadmissible qu'on ait une multitude de banques, des institutions financières, et qu'au guichet, on ait pas des agents des banques. On ait plutôt des gens qui... Ça, c'est inadmissible. Il est inadmissible qu'à l'intérieur du pays, par exemple, à Beni, qu'il y ait, par exemple, la Brassimba qui arrive, et autour de la Brassimba, il y a des mafieux qui créent des petites sociétés de sous-traitance pour la main-d'œuvre qu'ils maltraitent. La société sort 5 dollars par agent journalier et les journaliers se retrouvent avec 2 dollars. Oui. C'est inacceptable. Il faut qu'il y ait une loi qui criminalise de tels actes et cela pourra permettre à ce que l'on puisse pratiquement engager et si on n'engage pas, qu'on puisse avoir des sous-traitants sérieux qui sont à mesure de rémunérer la sueur des Congolais.
Voilà. Alors, juste une inquiétude avant d'accorder la parole à notre dernier auditeur. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a certains observateurs qui pensent que à l'arrivée en fait de cette loi, il faudrait d'abord balayer le secteur en amont, c'est-à-dire il y a eu des mesures qui ont été prises par l'ancien ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale, pour ne pas les citer, M. Bahati Lukwebo, qui avait suspendu certaines entreprises de placement. Alors, aujourd'hui, faudrait-il, en tout cas pour certains observateurs, initier une question orale à l'endroit du ministre de l'Emploi pour s'expliquer où en est-on avec cette question, réellement d'assainir les milieux pour que la loi vienne sur un terrain qui est déjà propre.
Oui, je pense que c'est une excellente idée pour que ceux qui travaillent rendent compte. Je pense que peut-être le ministre est empêché aujourd'hui et que prochainement, il pourrait y avoir peut-être une émission sur un état des lieux de cette situation. Ça peut se faire dans les médias, tout comme nous, au niveau du Parlement, nous pouvons l'appeler Mais je pense que si ça se fait au niveau des médias, ça aura beaucoup plus un écho s'il y a des Congolais qui vont le suivre. Et nous, au niveau du Parlement, nous ne nous empêcherons pas de faire le contrôle si nous constatons qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais je voudrais dire que les Congolais, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir des dirigeants. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple lui-même et pour le peuple. Et donc, nous devons récupérer la démocratie et être en mesure de demander à nous qui sommes politiques de rendre compte à cette population. Nous ne devons pas attendre de façon impassible que nous. La Constitution de la République prévoit que des Congolais peuvent adresser des pétitions à un ministre pour qu'il s'explique sur un secteur. On peut écrire une lettre à un ministre. Il a l'obligation constitutionnelle de vous répondre en délai 3 mois. Qu'ils vous disent comment se porte tel secteur ou tel autre, c'est à votre nom qu'ils gèrent.
Voilà.
Récupérons la démocratie, demandons des comptes de la démocratie, puisque à désigner des représentants, on ne s'aliène pas, on ne disparaît pas. La population continue à être là. Et donc, nous, comme délégués, comme représentants de la population, nous allons jouer notre rôle, et le rôle, nous sommes en train de le jouer. Nous avons constaté qu'il manquait une loi, un collègue a proposé une loi, l'honorable Mota, il a proposé une loi, et la loi est en train d'être améliorée au niveau du Parlement. Et donc, nous nous acquittons de notre mission, et la mission de contrôle, nous le ferons, mais pourvu que aussi, que des gens dénoncent, qui nous donnent de la matière. Je pense que Radio Okapi a mon numéro, s'il y a des auditeurs qui sont en train de suivre, et qui pensent que dans le secteur de l'emploi, surtout de la sous-traitance, il y a des choses inadmissibles, et bien s'ils nous les communiquent, et nous allons nous pourvoir pour contrôler le gouvernement qui va être obligé de descendre sur le terrain.
Merci beaucoup, honorable Arsène Mouaka, d'avoir accepté avec promptitude notre invitation pour venir éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à cette question. Mais encore merci, à très bientôt. Nous excusons auprès de Dr Richard qui allait être le dernier auditeur. Dr Richard, en tout cas, à venir de nous excuser parce que le temps nous fait défaut. On ne sera pas pour aujourd'hui à vous accorder la parole. Ce n'est qu'une partie d'église, peut-être pas, pourquoi pas demain ou après-demain, dans un autre débat. Nous disons merci à Dieudonné Nyangata qui a assuré la mise en œuvre de cette émission réalisée par Pierre Lamégi et Julie Feza Bongonda. Une émission coordonnée présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Lola Moulamba. À très bientôt.